bienvenue pour cette deuxième journée de notre colloque autour de l'œuvre de Pierre Manent. Je vais juste dire un mot pour présenter, même si elle n'a pas besoin de présentation, la présidente de notre séance de ce matin, Claude Habib. Cyril Lemieux, qui était censé présider la séance d'aujourd'hui, ne peut pas être présent et il le regrette du fait de ses obligations universitaires pour les services de cette école. Il sera peut-être parmi nous plus tard, mais donc nous avons le plaisir, à sa place, d'avoir comme présidente de séance Claude Habib, qui connaît très bien et Pierre et Manent et son œuvre. Et donc je la remercie beaucoup pour avoir contribué, pour contribuer à notre discussion. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon colloque. Merci Claude encore.
Merci à toi Julio. Donc nous commençons cette séance. Hier on nous a présenté Pierre attaché au mât et séduit par les sirènes de la sociologie et de la littérature. Aujourd'hui on se rapproche du centre de l'œuvre, il ne sera plus attiré vers l'extérieur puisque la séance va porter sur les formes politiques. Et on garde l'accent de la belle province, puisque je passe la parole à Marc Chevrier, qui a travaillé sur les formes politiques, et en particulier la notion de république au Québec, de république du Québec et du discours républicain au Québec, ce qui fait notre proximité, ce qui assure encore plus notre proximité. Il travaille à l'Université de Québec à Montréal, et je lui laisse tout de suite la parole.
Merci. Alors, je remercie également les organisateurs du colloque de m'avoir invité, Jean-Vincent Hollandre et Giulio Deligio. Mais je dois dire bien humblement que ce n'est pas ma qualité de lecteur chevronné et accompli de Pierre Manent que je suis ici. En fait, je dois avouer que je suis un parfait novice. Ma connaissance de l'œuvre de Pierre Manent date de peu. Lors de mes études doctorales à Paris, il y a cela quelques temps, jamais on ne m'a parlé dans mes séminaires de l'œuvre de Pierre Manent. Le maître mot était gouvernance, gouvernance, gouvernance. Et donc c'est plutôt par la bande que j'ai découvert Pierre Manent. En fait, grâce à l'action de ce que j'appellerais une franc-maçonnerie manentienne qui se distribue entre Ottawa, Montréal et Québec. Et à force de voir mes collègues trouver des pépites d'or dans l'œuvre de Pierre Manent, je me suis dit, bien, à mon tour, de plonger mon tamis dans la rivière fabuleuse. Alors, si l'ingénuité du regard est un titre suffisant pour parler de Pierre Manent, c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Par ailleurs, beaucoup d'autres que moi ont déjà traité excellemment de la question qui m'intéresse, la théorie des formes politiques, hier. Donc, peut-être que mes propos vous paraîtront une simple récapitulation. La théorie des formes politiques de Pierre Manent, je dirais tout simplement qu'elle a du relief, qui tranche donc avec la monotonie des théories contemporaines sur la démocratie. En effet, cette théorie introduit dans la science et la philosophie politique une dimension souvent oubliée, à peine théorisée, soit la dimension spatio-temporelle de toute association humaine. La géomorphologie des associations humaines ne fait pas que dessiner des frontières qui intéressent les douaniers et les cartographes. Elle conditionne la production même du monde commun, où se déroule toute vie politique, et selon qu'elle resserre les liens humains ou les distende, rapproche ou éloigne le pouvoir, cette géomorphologie se répercute sur la praticabilité même des différents régimes politiques dont les Grecs ont fait l'expérience dans leur cité et que l'Occident, par la suite, a tenté de transposer dans des associations plus vastes. En somme, avant de considérer le régime politique, il faut préalablement s'intéresser au type d'association humaine nécessairement bornée dans l'espace qui contraindra l'expérience même du politique. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement esquisser ce qui me semble quelques traits distinctifs de cette théorie des formes politiques. Dans un deuxième temps, je dirai quelques mots de l'un de ses inspirateurs possibles. Et là, je m'avance, François Guizot. Enfin, il s'agira, à partir des enseignements de cette théorie, de se poser la question de la forme politique qui émerge à notre époque. Si la nation est épuisée comme forme, du moins en Europe, assistons-nous à la réactivation d'une forme ancienne, l'Empire, ou à une forme nouvelle qui n'a encore ni de nom ni de consistance géopolitique. La question des formes politiques s'est posée très tôt dans l'œuvre de Manin. Il le revient en fait sans cesse dans ses ouvrages, en lui donnant toujours plus d'ampleur et de profondeur. Ainsi, ce qui ressemblait au début à une simple défense de la nation s'est transformé en une réflexion sur le zone d'air vague occidentale et sur les impasses de la pensée politique moderne édifiée sur une rupture par trop radicale avec la science politique des anciens. La théorie des formes politiques de Manin vient couvrir ce qu'on pourrait appeler l'angle mort de la science politique moderne, c'est-à-dire tous les éléments concrets qui relèvent de la géographie et de la démographie humaine, qui font l'expérience de la chose politique. Comme le dit Manin dans les Métamorphoses de la cité, de cette science politique, elle est d'abord science pré- ou apolitique, qui cherche à garantir ses résultats en partant d'une axiomatique géométrique indépendante de l'expérience politique qui lui est contemporaine. En tournant le dos à l'expérience du politique, elle se prive de comprendre les ressorts de communautés réelles et fait abstraction des modalités mêmes de leur association. Or, tout régime politique et toute science du politique qui le pense ne peut se dispenser de saisir la matrice humaine particulière qui est substantielle et concrète où il aura à se réaliser. Dans Droit naturel et Histoire, Léo Strauss dit de la philosophie politique de Hobbes qu'elle est insulaire. En ce sens que cherchant à combiner dans son système un idéalisme politique et une conception matérialiste et athée de l'univers, il lui importait de trouver un fondement incontestable que lui fournir les mathématiques, qu'on soit un socle dogmatique par les constructions desquelles l'homme peut se rendre maître de la nature et peut se penser à l'origine de toute chose. L'homme, donc, selon Strauss, habite une île artificielle faite d'abstractions mathématiques d'où il observe sans pouvoir la comprendre, la nature. N'oublions pas que de nombreuses cités grecques étaient en fait non pas des îles, mais résidaient sur le continent, comme Sparte et Athènes. Si la pensée moderne est insulaire, ainsi que l'a souligné Strauss, la pensée de Manin est continentale, à tout le moins péninsulaire. Elle est topique et non pas atopique, comme l'est la pensée moderne. Elle postule que les ensembles humains sont naturellement incorporés et non pas sans corps, car ces ensembles, à l'instar des individus, font continuellement l'expérience de leur finitude dans un espace borné où ils réalisent certaines potentialités humaines. La théorie des formes politiques de Manin répond au problème que Daniel Tanguay, s'agissant du travail du philosophe Daniel Jacques sur la nationalité et la modernité, a appelé celui de la clôture politique. Tanguay définit ce problème comme suit. Il faut entendre ici par clôture politique le fait que toute communauté politique se trouve dans l'obligation de définir avec précision le territoire qui borne l'exercice de sa souveraineté. Or, Tanguay donne cette définition en s'inspirant des travaux de Manin. Or, Manin souligne que le principe démocratique, en tant que régime, souffre, on pourrait dire, d'une inéluctable incomplétude, c'est-à-dire il ne peut engendrer lui-même le cadre humain dans lequel il devra s'exercer. À la différence toutefois de Daniel Jacques, dont le travail est axé sur la nation et qui s'emploie à relever comment la philosophie moderne a traité diversement ce problème, Manin a forgé, tout d'une pièce, une espèce de grammaire générative des différents types de clôture politique que l'Occident a expérimenté depuis la Grèce antique et des différentes pensées du politique que chacune de ces formes de cette grammaire, la cité, l'empire, l'église et la nation, a suscité. Comment cette grammaire est-elle construite? Manin rassemble tout d'abord des formes à partir d'une logique spatiale relativement simple, pareille à la logique numérique dont il fait procéder la variété des régimes. Si ces derniers expriment le gouvernement d'un seul, du petit nombre ou du grand nombre, les formes politiques de l'Occident vont du cadre restreint de la cité, puis à l'étendue moyenne de la nation, et finalement à l'étendue extrême ou illimitée de l'Empire et de l'Église. En fait, maintenant, ne s'intéresse pas à toutes les formes possibles d'associations humaines, bien qu'il en évoque d'autres dans ses travaux, comme la famille et la tribu. Dans son cours familier de philosophie politique, il cite au passage Jean Béchler, qui, dans « démocratie » au pluriel, a développé une typologie générale de la morphologie des expériences démocratiques de l'humanité. Béchler distingue 8 formes, sans se restreindre à l'Occident. Par exemple, la féodalité, les castes, les royaumes qui distinguent de la nation. Manant part d'un répertoire plus restreint, en ajoutant l'Église, saisie en tant que forme et réalité politique objective. Cette Église ne constitue pas moins une communauté universelle réelle qui doit être considérée comme une véritable forme causante dont le travail conjugué à celui des autres formes est à l'origine du mouvement du devenir moderne. Le présupposé central de sa théorie est qu'il y a un nombre déterminé de formes politiques. Il en fait une des propositions théoriques les plus importantes de la science politique. Et au fin de sa théorie, les formes pertinentes de l'analyse sont celles capables de produire un monde politique commun. Autre présupposition, aucun ensemble humain ne vit hors d'une forme. Et s'il en quitte une, c'est qu'il en adopte une autre ou subit la concurrence de plusieurs formes à la fois. En ce sens, il ne saurait y avoir de société en état d'indéfinition morphologique. L'humanité n'est pas une association humaine, insiste Manant. Si chacune de ces formes est un produit de l'histoire, il est néanmoins possible de retracer le mouvement qui a présidé à la succession des formes politiques en Occident, d'en éclairer la trajectoire par l'étude des motifs humains que chacune a nourris dans l'œuvre de ses penseurs et écrivains politiques. C'est donc dire que le niveau macro-humain de la forme politique se réfracte en quelque sorte dans le niveau micro-humain de la conscience individuelle. Tout se tient ensemble, le nombre qui dépend de la forme politique, les principes politiques et l'existence d'un bien commun produit par l'action politique. Manant va même jusqu'à dire que les idées ne sont causantes qu'à l'intérieur d'une situation ou d'une forme politique ou spirituelle. La théorie de Manant accorde un rôle premier fondateur à la cité grecque, qui s'est signalée par l'adéquation de l'expérience et de la pensée. Les philosophes ont théorisé les régimes et l'excellence politique sur la base d'un monde politique déjà existant. Mais sitôt le cadre de la cité dépassé, une autre forme, l'empire, s'installe en exploitant les limites de la première et en posant des problèmes inédits à la pensée politique. Parmi les 4 formes distinguées par Manant, 2 apparaissent pleines ou intenses, la cité et la nation, et 2 diluent l'expérience du politique, l'empire et l'Église. Et la nation, la dernière des 4 formes qui se sont succédées, est une synthèse des 3 premières et la solution que l'Europe a trouvée aux problèmes théologico-politiques posés par l'accident du christianisme dans l'histoire. La cité également, on pourrait dire, est singulière parce qu'elle tient par elle-même, elle est seule. Alors que les autres formes, je dirais, sont des formes d'une certaine façon mixtes. Elles ont tendance à inclure d'autres formes. L'Empire, tout au moins l'Empire romain, incluait ou écrasait les cités. L'Église a vocation à couvrir les autres formes. Et la nation englobe des cités. Manant n'enferme cependant pas l'avenir des associations humaines dans une grammaire limitative. Cette grammaire est ouverte, car il n'est pas impossible que d'autres formes naissent s'il est vrai que la nation doit s'effacer. Il s'agit donc d'une formule dynamique, comme il le dit lui-même. En ce sens, l'histoire de la démocratie est loin d'être achevée. Si d'aucuns la pensent comme le régime terminal de la modernité, elle s'adosse toutefois nécessairement sur une forme politique dont le changement, si l'on en juge par l'histoire des formes depuis la cité grecque, a été source de bouleversements profonds étalés sur des siècles. Par cette théorie des formes politiques, Manant ne joue pas la pensée des anciens contre celle des modernes, ni ne préconise un retour à l'antique. La raison en est que notre monde n'est pas celui de la cité antique. Seulement, il a été engendré par le dépassement de cette cité par l'Empire romain et par l'éruption puis l'apaisement de la question théologico-politique au cours d'une longue période de confusion des formes politiques. Ce faisant, Manant décentre la pensée politique moderne, dont l'axiomatique devient explicable par cette confusion même, historiquement située, et par la volonté de ces penseurs de donner à la cité de l'homme un socle indiscutable en l'absence d'expérience politique disponible pour fonder la naissance d'un homme nouveau et libre. Une des influences, me semble-t-il, qui s'est exercée sur l'œuvre de Pierre Manant, c'est celle de François Guizot. Manant le reconnaît implicitement et parfois un peu plus ouvertement dans ses ouvrages. Et je crois que l'histoire générale de la civilisation en Europe de Guizot nous fournit une clé de lecture de cette théorie des formes politiques. Ainsi, au premier chapitre, d'ailleurs, de cette histoire, Guizot élabore sur ce qu'il entend par les faits. Et ce qui est très intéressant, c'est que Guizot dit qu'il y a des faits qui, loin d'être des données brutes, doivent recevoir une interprétation large. Et ces faits incluent, outre les faits événementiels, les faits moraux. Et tous les faits généraux qui n'ont ni date, ni lieu précis, mais qui n'en sont pas moins réels. Et si l'on suit Guizot, parmi ces faits difficiles à cerner, mais qui sont néanmoins réels, il y a ce que Guizot appelle la portion philosophique de l'histoire, qui est, selon Guizot, la portion de l'histoire la plus difficile à saisir et à interpréter. Et ce qui est intéressant également chez Guizot, c'est que les faits qui paraissent n'intéresser que l'âme humaine, l'homme individuel, s'éclairent de la considération de la civilisation où ils évoluent. Ainsi, les faits qui n'appartiennent qu'à l'homme intérieur voient, pour paraphraser Guizot, leur importance s'accroître, leur sublimité s'élever par leur rapport avec la civilisation. Guizot reconnaît lui-même qu'il ne fait que l'histoire de l'homme extérieur. Cependant, il annonce dans un passage ce qui me semble, quant à moi, la voie suivie par Manant. Et Guizot écrit « Après tout, messieurs, à l'époque, il s'adressait qu'à des messieurs, quels que soient les événements extérieurs, c'est l'homme lui-même qui fait le monde. C'est en raison des idées, des sentiments, des dispositions morales et intellectuelles de l'homme que le monde se règle en marche. C'est de l'état intérieur de l'homme que dépend l'état visible de la société. » Guizot annonce là peut-être ce qui deviendra la méthode de Manant dans plusieurs de ses ouvrages. Comprendre la genèse de la civilisation moderne à partir des mutations des sentiments qui habitent l'homme européen, tant et si bien que l'expérience de l'histoire, telle que l'homme l'éprouve dans sa conscience et ses sentiments d'être soi, devient l'expérience la plus profonde et la plus décisive, comme Manant l'écrit d'ailleurs en ouverture de la cité de l'homme. D'où cet intérêt de Manant pour des notions telles que l'ordre de l'âme, les dispositions de l'âme humaine, l'état des âmes ou les motifs, dont la connaissance implique un petit peu d'imagination psychologique. Guizot et Manant réfléchissent sur les formes politiques à partir du concept de civilisation. Or, chez Guizot, la civilisation ancienne se distingue par son unité. Il écrit « En un mot, quand on considère les civilisations antiques, on les trouve toutes empreintes d'un singulier caractère d'unité dans les institutions, les idées, les mœurs. Une force unique, ou du moins très prépondérante, gouverne et décide de tout. » L'analyse de Guizot, comme celle de Manant, suppose un postulat. Je ne sais pas si ça relève de la philosophie de l'histoire. Les peuples tendent à être gouvernés par un seul principe social général. Il arrive toutefois que plusieurs principes se disputent leur empire, mais comme le dit Guizot, la coexistence et le combat de principes divers n'ont été dans l'histoire de ces peuples qu'une crise passagère, un accident. Et c'est Guizot qui nous donne une clé de lecture sur l'émergence de la nation, qui met un terme, au fond, à ce conflit de formes ou de principes qui a divisé l'Europe depuis la fin de l'Empire romain jusqu'au début du XVIe siècle. Et cette forme nouvelle est celle de la monarchie. Manant est également près de Guizot par le jugement porté sur la faiblesse intrinsèque de ce que le premier nomme la cité et l'autre, le régime municipal, dont le républicanisme a porté la renaissance dans les nations communales et guizots au Xe et XIe siècle. Ce qui condamnait l'organisation républicaine, selon Guizot, c'est qu'elle ne contenait pas en elle-même le principe de progrès, de la durée, de l'extension, qu'elle n'avait pas d'avenir. Tous les deux, Guizot et Manant, voient dans l'Empire le régime du despotisme. De même, Manant n'est pas loin de Guizot quand il attribue la défaveur du gouvernement représentatif et de la nation à des causes profondes comme la disparition des prolétaires et des couches populaires dans le discours politique. Cela dit, il faut bien se garder de penser que Manant suit Guizot en tout. Dans un texte où il compare celui-ci et Tocqueville, on saisit la distance que Manant creuse avec Guizot sur plusieurs points, notamment sur l'idée que la division entre classes ou entre la société et le pouvoir par les moyens du gouvernement représentatif travaillerait à terme au service de l'unité, ou que les changements de régime politique s'expliquent uniquement par l'histoire de la société. Autrement dit, Manant emprunte peut-être à Guizot, mais en corrigeant cet emprunt par sa propre lecture de Tocqueville. Troisième point, après la nation, est-ce l'Empire? Point d'interrogation. La théorie des formes politiques de Manant est manifestement portée par une inquiétude, la fin possible de la nation. Cette théorie est d'une certaine manière une apologétique de la nation, en ce sens que si l'œuvre synthétique de la nation doit être défaite, il n'est pas assuré que l'Occident, en particulier l'Europe, puisse forger une nouvelle forme politique de remplacement qui conjugue avec bonheur liberté, civilisation, liberté et communion. Ce qui pose la question de l'Empire, est-il appelé à remplacer la nation vraisemblablement en retrait? Pour répondre à cette question, il convient d'abord de se rappeler quel problème de forme politique l'émergence de la nation a résolu dans l'histoire européenne. Pierre Manant avait déjà très clairement posé ce problème dans le chapitre introductif de son histoire intellectuelle du libéralisme, chapitre intitulé « L'Europe et le problème théologico-politique ». Manant y décrit l'histoire européenne comme un processus d'élaboration d'une forme politique adéquate qui succède à d'autres formes politiques disponibles, épuisées ou incapables de refaire l'unité du politique et du social et qui se sont opposées après la chute de l'Empire romain. Par la suite, deux formes politiques vont continuer de subsister, qui sont chacune, insiste Manant, et Manant l'a redit hier, deux idées politiques naturelles, soit la cité et l'Empire. Mais ni l'une ni l'autre ne vont réussir à s'imposer de nouveau en raison de l'existence d'une troisième forme inédite, l'Église, qui posera à l'Europe un problème structurel. Donc, face à l'Église, ni l'Empire ni la cité ne réussiront à se rétablir. La cité est trop particulière. Et l'Empire peinera à renaître de ses cendres, puisque l'Église va s'opposer en étant elle-même une autre forme d'Empire procédant d'une cité invisible. Tant et si bien que, dès 1987, Manant posera le problème théologico-politique en des termes presque mathématiques. Étant donné les caractéristiques de l'Église catholique, trouver la forme X qui permette d'assurer l'indépendance du monde profane. Et cette forme X recherchée sera la monarchie qui accouchera de l'idée de nation. Or, contrairement à la cité et à l'Empire, la nation moderne n'est pas une idée naturelle, puisqu'elle s'est construite contre la nature, dans ce monde dégagé à la fois du cosmos naturel des anciens et de la grâce divine. Toutefois, tout porte à penser que la forme de la nation, après avoir connu son apogée née de sa fondation révolutionnaire, s'est épuisée depuis l'autodestruction cataclysmique des deux guerres mondiales. La médiation nationale ne semble plus pouvoir engendrer d'unité politique du genre humain, du moins en Europe. Se pose alors la question, pourquoi ces deux formes naturelles, la cité et l'Empire, ne retrouveraient-elles pas toute leur vigueur d'antan? D'autant mieux que l'Église a perdu son ascendant sur le monde profane. Il est frappant que les métamorphoses de la cité ne se commode pas davantage en conclusion sur le retour de l'Empire comme forme politique. Manant laisse le lecteur sous une interrogation. Se pourrait-il qu'une nouvelle médiation, après celle de l'Église et de l'humanité révolutionnaire, prenne le relais? Pourtant, dans d'autres textes, Manant suggère à demi-mot, parfois plus affirmativement, que le temps de l'Empire n'est point révolu et qu'au surplus, il prend une forme démocratique. Ainsi, dans la raison des nations, ou le cours familier de philosophie politique, Manon fait de l'Empire une forme contemporaine. En introduction du premier livre, il oppose les visions américaines et européennes de l'Empire démocratique. La première a conservé un pivot central, la nation américaine, c'est donc dire qu'on puisse être à la fois une nation et un empire, persuadée d'incarner naturellement la démocratie et de pouvoir en exporter les bienfaits à travers le monde. C'est un empire réel par lequel les États-Unis exercent un véritable gouvernement impérial. La deuxième vision, pareille à une démocratie sans peuple, détachée de toute délibération collective, gouvernée par une grande agence humaine centrale, incarne pour Manon l'empire possible, si la construction européenne doit aboutir à quelque chose. Si différentes qu'elles soient, ces deux versions de l'empire démocratique ont en commun le fait qu'elles sont aimantées par la perspective d'un monde où aucune différence collective ne sera plus significative. Toutefois, plus loin dans son ouvrage, il écrit « L'empire est une forme typique de la politique ancienne. On pourrait dire que le devenir moderne, en termes politiques, c'est trouver une alternative à l'empire. » Ce balancement dans la pensée de Manon sur l'Empire, qui relègue à l'ancien ou associe à l'islam, et qui néanmoins continue d'exister, s'explique peut-être par la naturalité de l'Empire que son analyse postule et sa nécessaire insuffisance, puisqu'à ses yeux, seule la cité et la nation en tant que forme politique ont su marier intimement la civilisation et la liberté, alors que les empires historiques ont tendu à ignorer la liberté. Au fond, la position de Manon serait peut-être la suivante. Oui, les empires existent, et même sous une forme démocratique, mais je ne peux me résoudre, sur le plan normatif, à ce que ce soit la nouvelle forme qui succède à la nation en Europe. Et encore moins sous la forme d'un empire d'ange réclé sur la dépolitisation humanitaire. On notera du reste que dans les métamorphoses de la cité, Manon multiplie les analogies entre l'âge impérial romain et la politique moderne. On le voit notamment lorsqu'il confronte Cicéron et Machiavel sur le régime mixte. À l'inverse de Cicéron, Machiavel, souligne-t-il, loue le déséquilibre des forces inhérents au régime mixte, agité par la lutte entre les grands et le peuple. Un peuple libre et capable, je le cite, de défendre sa liberté contre l'oppression du petit nombre, forme l'un des postulats centraux du théorème machiavélien du pouvoir, liant, écrit Manon, l'empire à ce que l'on peut déjà appeler la démocratie. S'agissant de la Rome antique, Manon traite de la distension de la vieille république, où le lien civique se relâche et sépare donc le citoyen de l'individu. Il voit un passage des anciens aux modernes dans la succession de l'empire à la république qui se consomma sous Auguste, comme si l'empire du temps du Principat préfigurait l'empire démocratique moderne. Il décrit ce passage en ces termes. À un ordre républicain reposant sur le gouvernement politique de la chose commune, a succédé un ordre bientôt impérial reposant sur la protection juridique des propriétés et des droits particuliers. Manon parle ainsi de deux modernités, l'ancienne, pensée par Cicéron, et la contemporaine, la nôtre, où le devenir individu repose sur un libéralisme des droits garantis par un État représentatif expansif. Ainsi, la liberté civique est-elle diluée par l'écart grandissant entre le petit nombre et le très grand nombre. En rapprochant ainsi deux modernités, Manon laisse peut-être aussi entendre que nous traversons aujourd'hui un nouvel âge impérial marqué par la distension du lien civique, l'érosion, sinon l'abolition des limites de la forme nation, ainsi que par le détachement progressif de l'action humaine de toute forme politique concrète à la faveur d'une morale générale portée par les droits de l'homme. En évoquant l'unification européenne en cours, Manon décrit un vaste espace de civilisation régi par des principes étrangers aux politiques, l'économie, la culture, les médias et le droit, où la vieille dialectique nationale qui avait fait la fécondité de l'Europe s'est affaiblie sans être remplacée par une réelle vie civique pan-européenne, à défaut de corps politique européen, de choses communes au continent. Mais si l'Europe advient sous une forme impériale, ce n'est pas pour autant un retour à l'empire des Habsbourg. Il s'agirait d'une forme inédite d'empire qui confronte les Européens à une alternative, ou bien continuer dans la voie de l'indéfinition, au risque de voir l'Europe cumuler une double faiblesse, celle de ses nations et celle d'un directoire européen privé de corps, ou bien réussir à mettre beaucoup de choses en commun, beaucoup plus ce que pouvait nécessiter un empire de couronne. Manant écrivait déjà dans son texte « Note sur l'individualisme moderne » « J'admets sans difficulté de principe qu'on renonce à la nation comme forme politique, mais je ne crois pas qu'on puisse vivre longtemps dans la seule civilisation sans appartenance politique. » Et une grande part de l'inconnu vient du fait que ce qui avait constitué dans l'histoire européenne le plus actif principe d'unité de communauté, avant de devenir le plus corrosif principe de division, c'est-à-dire la religion, ne semble plus disponible pour faire l'unité de l'Europe. Il n'y a pas pour l'heure de cité de Dieu qui puisse faire concurrence à une cité européenne. Ainsi, ce qui semble être une des ambivalences de la pensée de Manant sur la résurgence ou non de l'Empire découle en fait des prémices de sa théorie des formes politiques. L'une d'elles est que la marge de l'histoire, conditionnée certes par un certain nombre de formes qui se sont succédées depuis la monarchie de Philippe de Macédoine, débouche sur un avenir encore ouvert. Ouvert aussi bien à la naissance d'une forme inédite, encore à définir, ou à l'entrée dans une période transitoire, peut-être très longue, à l'instar du moment cicéronien, où la naturalité de l'empire et de la cité le dispute à ce qui subsiste de la nation. Le régime démocratique est loin d'avoir atteint le stade final de l'humanité, du moins en Europe, car il est loin d'avoir trouvé une forme aussi pleine et intense que les anciennes cités et les nations qui ont somme toute existé au regard de l'histoire longue pendant une courte durée. Alors je termine, mais il est clair que pour Manant, cette ouverture de l'histoire est à la fois une occasion inédite et une perte. Il serait sans doute d'accord, du moins en partie, avec cette conclusion de Jean Béchelaire figurant à la fin de son ouvrage « Démocratie ». Je le cite, « L'Europe est une exception heureuse et glorieuse de démocratisation à contre-courant du mouvement général d'impérialisation. Dans la foulée de la démocratisation, l'Europe a aussi inventé une morphologie nouvelle, la nation, qui est devenue le cadre d'expérience démocratique après la bande, la tribu et la cité. Il n'y a pas de ligne évolutive, il n'y en a même pas plusieurs. Il y a des histoires faites par des hommes, poursuivant leur fin à travers des contraintes de moins en moins naturelles et de plus en plus culturelles. » Je vous remercie.
Merci, merci Marc. Vous avez beaucoup de choses dans votre tamis. Et j'admire qu'un débutant, comme vous vous êtes présenté, fasse déjà de la critique des sources et nous ramène à Guizot pour mieux comprendre Pierre Manant. Si vous le voulez bien, la discussion de cet exposé aura lieu après que je passe la parole à Julien Baroche et que nous l'écoutions. Julien Baroche est spécialiste de la notion de subsidiarité. Il nous a appris à nous méfier de ce mot si ample, si répété, et il va maintenant nous parler de nouveau de l'Europe et donc de la perplexité où nous sommes aujourd'hui.
Merci. Merci d'abord aux organisateurs du colloque qui m'ont fait l'honneur de me convier à participer aux travaux, Jean-Vincent Olindre et Giulio Diligio. Merci aussi, bien sûr, à Pierre Manant. Et comme mon prédécesseur, je n'ai pas de titre spécifique à parler sur Pierre Manant, pas de titre en tout cas philosophique, pas de titre non plus sociologique d'ailleurs, pour faire écho à ce que nous disions hier. Je parle avec une étiquette universitaire qui est commodément celle de juriste, même si je vais essayer de m'en extraire pour rendre ce propos plus vivant, parce que je sais bien qu'en dehors du corps des juristes, comment dire, le dialogue sur le droit ne se fait pas nécessairement facilement. Alors, le titre de ma communication est peut-être un peu trompeur. En tout cas, il habille assez large. et ceci pour plusieurs raisons, notamment parce que pour traiter de la question européenne, je crois que on ne doit pas s'enfermer dans les compartiments académiques, et que ce que je vais essayer de faire ici, c'est de rétablir un dialogue qui est souvent souterrain, donc je vais peut-être parfois forcer le trait, un dialogue souterrain entre Pierre Manant et l'Europe, l'Europe que je vais essentiellement entendre dans sa forme contemporaine, à travers donc, ce qu'on appelle communément construction européenne. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur ce vocable très, très commode de construction européenne. Et derrière ce dialogue que j'essaie de reconstituer, finalement, pointe constamment cette catégorie polémique qui finalement court depuis nos travaux d'hier, celle de libéralisme. Finalement, derrière le rapport de Pierre Manant à l'Europe, c'est la question du libéralisme que je vais essayer de dédoubler en deux points. Celle de l'État, c'est un peu mon dada, donc je vais parler de l'État, et celle de la nation pour établir ce couple, d'une certaine manière, qui est moins évident qu'il n'y paraît, qui, bien sûr, apparaît historiquement dans l'histoire de manière plus ou moins concomitante, mais qui, conceptuellement, demande à être découplé de manière à bien percevoir toute l'amplitude du problème. Mon point de départ, il est provisoire, donc je vais forcer le trait, donc au risque de brusquer certains. Je partirai du point de vue suivant. On pourrait dire, en première approximation, d'une certaine manière, que l'Europe, la construction européenne, est libérale. Et notamment, elle a plusieurs titres à promouvoir pour se dire libérale. Elle promeut les libertés. Reste à savoir comment, bien sûr, mais elle promeut les libertés. Elle promeut les droits individuels. Elle s'efforce de les défendre, de les garantir. Elle donne un cadre à l'économie de marché. Et, plus en amont encore, elle participe de ce vieux thème libéral, ce vieux thème de la civilisation, on en a parlé à l'instant, à savoir donc la substitution du commerce à la brutalité de la guerre, la substitution de l'échange pacifique à l'affrontement des puissances. Donc, d'une certaine manière, l'Europe pourrait apparaître à nos yeux comme une émanation du grand processus libéral de civilisation, au sens quasi éliassien du terme. Et donc, si on admet ce premier principe, la position de Pierre Manant par rapport à cette Europe dite libérale est un peu inconfortable. Pierre Manant, précisément, peut subir les foudres de l'excommunication, d'une certaine manière, parce que il ne remplit pas le cahier des charges, dans son entièreté, en tout cas, de ce que je viens de rappeler de la situation libérale de l'Europe. C'est un peu le paradoxe, donc, du dialogue de Pierre Manant avec l'Europe. Tout se passe comme si, d'une certaine manière, l'Europe et le libéralisme conjuguaient leurs forces pour, finalement, disqualifier les grandes interrogations ultimes sur le sens de l'Europe, et pour apparaître à nos yeux comme sans adversaire légitime. Alors j'admets bien que j'ai tendance ici, en forçant le trait, à faire de l'essentialisation complotiste, et précisément, une fois posé cette première pierre, je vais essayer de dégrossir triplement cette manière un peu cavalière de présenter les choses. D'abord, on pourra douter du caractère proprement libéral de l'Europe. Qu'il suffise de regarder outre-Manche pour bien considérer en quoi le pays du libéralisme, la patrie du libéralisme, a de bonnes raisons, et de très bonnes raisons même, de se montrer réfractaire à certains emballements de la mécanique européenne. Ensuite, on ne manquera pas, si on retourne son regard de ce côté-ci de la Manche, de voir que le libéralisme est inscrit dans une situation particulière. C'est un étendard assez peu revendiqué dans le champ intellectuel français, notamment peu revendiqué parce qu'il est entendu dans sa dimension étroitement économique. Et dans la dernière période, libéralisme, ça veut dire en gros mondialisation sauvage. Donc, il y a, d'une certaine manière, là aussi, à dégrossir cette affaire. Et enfin, parler en ces termes, c'est finalement installer Pierre Manan dans une position très inconfortable, encore plus que celle dans laquelle il est depuis deux jours, à savoir celle de simple victime innocente. Je ne voudrais pas non plus faire apparaître Pierre Manan comme la victime d'une Europe libérale. Je voudrais simplement essayer de restituer les termes de ce procès, ce qu'on pourrait appeler en crime de lèse-libéralisme. Et ce procès en crime de lèse-libéralisme, finalement, il oppose plus ou moins deux camps. D'un côté, le libéralisme comme slogan performatif auto-revendiqué. Mais là, j'admets qu'il ne concerne qu'un champ infime, une partie infime du champ intellectuel français. Et de l'autre côté, une hétéro-désignation stigmatisante. Le tout dans un contexte global où la moindre critique du libéralisme, finalement, peut apparaître ou revêtir les aspects de s'exposer aux foudres, donc d'une critique en termes d'anti-libéralisme sommaire. Finalement, ce que l'on reproche à Pierre Manan, c'est, à la suite, bien sûr, de d'autres, comme Raymond Aron, c'est d'avoir incarné un renouveau intellectuel du libéralisme dans les années 70-80. Et cette incarnation, d'une certaine manière, lui donne certains titres de légitimité à parler, d'une certaine manière, au nom du libéralisme, ce qui explique l'inconfort de la situation. Finalement, Pierre Manan a le mérite d'être un libéral lucide et a le mérite, justement, d'être parfaitement conscient de l'inscription historique de la catégorie libéralisme, de son caractère polémique et, pour finir, de son caractère, finalement, très relatif. Si l'on considère le camp adverse, on voit que, au nom du libéralisme, il y a deux sources principales qui prennent la parole pour mener ce procès en crime de lèse-libéralisme. Il y a d'abord le point de vue du cosmopolitisme post-national, d'une part, avec toutes les écoles et affiliations correspondantes. Et puis, il y a le courant de l'individualisme radical. Les deux, bien sûr, n'étant pas nécessairement étrangers l'un à l'autre. Comme s'il était, finalement, radicalement antilibéral, s'offusquer de certains débordements de la dynamique individualiste, et comme s'il était radicalement antilibéral également, de mettre en garde contre la perte de ce cadre historique qu'est la nation. Si l'on creuse un peu, on voit bien que le libéralisme, depuis son origine, peut être défendu depuis des options philosophiques fort différentes. Et son propre, d'une certaine manière, c'est de laisser ouvertes les questions ultimes. Et la situation dans laquelle on est placé quand on rétablit ce dialogue entre Pierre Manan, le libéralisme et l'Europe, c'est de bien nous faire comprendre que le libéralisme ne répond pas à toutes nos questions et qu'on n'a pas à tout demander au libéralisme. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit hier, notamment sur la distinction de différents niveaux épistémologiques à propos du libéralisme, à savoir, d'une certaine manière, la réalité vécue du monde libéral, la modernité libérale, je reviendrai sur l'accolement de ces deux termes qui peut parfois me poser problème, et puis de l'autre côté, l'idéologie libérale, la politique libérale, avec ses débordements et ses emballements. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, qui sera beaucoup plus courte, consisterait à dire finalement qu'il y a un parallèle entre le questionnement de Pierre Manan sur la démocratie, sur les conditions de possibilité de la démocratie, et son questionnement sur le libéralisme. Ce qui m'amène, d'une certaine manière, si on voulait faire une cartographie des concepts que j'essaie de manipuler ici, ce qui m'amène à une double entrée, d'une part la nation et la démocratie, et d'autre part l'État et le libéralisme. Donc qui sont finalement deux foyers de sens qui évoluent parallèlement, qui se renforcent de manière dialectique. La mode aujourd'hui, on le sait bien en sciences politiques, c'est d'opposer terme à terme le libéralisme et la démocratie. Je ne prendrai pas ce chemin et je m'inscrirai ici dans la droite ligne des enseignements aroniens, des enseignements qui ont été repris par Pierre Manant pour insister sur le fait que finalement il y a une connexité fondamentale entre le libéralisme et la démocratie, que le libéralisme finalement ne se comprend du point de vue où nous sommes que dans son devenir démocratique d'une certaine manière, sans rétablir une fatalité historique dans ce mouvement. Mais si l'on prend bien en compte le principe d'égalité devant la loi, d'une certaine manière, on a le curseur qui permet justement de faire le jeu de va-et-vient entre le libéralisme et la démocratie. Donc je n'entrerai pas dans les débats sempiternels qui agitent aujourd'hui la sociologie politique, à savoir la représentation, le gouvernement représentatif et d'une certaine manière, une atteinte portée à la démocratie. C'est plutôt en termes de conditions de possibilité de la démocratie qu'il faudrait raisonner ici. Le diagnostic que l'on peut essayer de rétablir en reprenant les mots de Pierre Manant, c'est celui d'un emportement autodestructeur. Ça a déjà été dit. Un emportement autodestructeur, et je le qualifierais volontiers en des termes religieux, j'y reviendrai. Ce qui m'amène temporairement à dire que nous avons affaire ici à une Europe religieusement libérale. Une Europe religieusement libérale qui deviendrait aveugle devant ses conditions de possibilité, une démocratie libérale ou inversement un libéralisme démocratique qui prétend à l'autosuffisance et à l'immédiateté dans sa réalisation. Donc, bien sûr, de manière explicite ici, c'est la question de la médiation qui est posée. Si l'on reprend la double entrée que j'ai proposée, État, libéralisme, nation, démocratie, on voit bien que l'Europe ne cherche pas seulement à se libérer, je reviendrai sur ce terme, se libérer de la nation, elle cherche aussi, et c'est une dynamique conjointe, à se libérer de l'État. Et elle interprète, j'essentialise l'Europe pour les besoins de ma démonstration, mais on pourra me critiquer sur ce point tout à l'heure. L'Europe se prétend ici comme la pointe avancée du processus séculaire de civilisation. Entre l'Europe et le libéralisme, on peut faire intervenir un troisième terme, celui de l'État. Et derrière l'État, finalement, c'est Pierre Manant, en tout cas je vais essayer de le restituer en ces termes, c'est Pierre Manant qui nous parle. Si l'on accepte ce dialogue ici à triple voix, on pourrait dire que l'Europe et le libéralisme se présentent respectivement vis-à-vis de l'État dans une situation assez comparable. Une situation paradoxale faite de dépendance, d'une part, et de méfiance, et même plus que de méfiance, de solidarité complémentaire, d'une part, et d'adversité ou d'hostilité foncière. L'Europe, on peut le dire en ces termes, veut dépasser les États. Je reviendrai sur les différents diagnostics qui peuvent être posés, soit celui du vice originel. Depuis le début, l'Europe veut dépasser les États, ou alors, c'est ce que j'ai cru comprendre de ma lecture de Pierre Manant, il y a un moment, qui serait plus ou moins le tournant maastrichtien, il y a un moment où la mécanique s'emballe. Et finalement, on pourrait tenter une synthèse en disant que ce moment révèle quelque chose qui était plus ou moins non dit depuis le début. En gros, si l'on considère notamment ce document historique qui n'a pas pris une ride pour comprendre le génome, si je puis dire, de la construction européenne, c'est la déclaration Schuman, bien sûr. Si l'on considère ce document, eh bien, on voit que la construction européenne peut être résumée de la manière suivante. Là aussi, je vais reprendre un ton un peu cavalier. Les États-nations ont produit la guerre. Ils ont produit la guerre en empruntant différentes formes historiques qui vont de l'absolutisme au totalitarisme en passant par le nationalisme et l'impérialisme. J'insiste bien sûr ici sur la continuité. Il n'y aurait que des différences de degré entre l'absolutisme et le totalitarisme qui conduit justement à opérer une disqualification par le pire. La théorie de la sociologie dominante, c'est-à-dire celle de l'effet pervers, ici, prend le nom de disqualification par le pire. Comme si, bien sûr, l'État-nation devait culminer dans cette apothéose totalitaire et révéler sa vérité. Donc, en retour, l'Europe a beau jeu de se présenter comme purgatoire, comme sas de rédemption, purgatoire providentiel des États-nations, comme une longue séance de psychanalyse collective. Ce qui est en jeu, bien sûr, c'est le questionnement sur le caractère ou non foncièrement belligène de l'État et de la nation. Alors j'entends bien les objections que l'on oppose à Pierre Manon, qui bien sûr, là je force tellement le trait dans mon diagnostic, ne reprend pas ces termes pour expliquer la genèse de la construction européenne. Donc je profite de cet exposé pour aussi y mettre de ma patte personnelle. Mais en gros, ce qu'on objecte à Pierre Manon, c'est de procéder par absolutisation nostalgique du passé national, de s'illusionner sur l'État-nation en l'appréhendant en des termes trop globalisants. Il y aurait donc une exagération, une exagération à la fois illusionnée et passéiste de la réalité démocratique de l'expérience stato-nationale. Ce qui permet justement, quand on s'engouffre dans la prêche, ce qui permet à l'Europe de revendiquer ce titre, non seulement donc de la pointe avancée du libéralisme, mais aussi de la pointe avancée de la démocratie. Une démocratie qui aura été redéfinie à son aune propre. Je reviendrai sur cette forme d'autisme conceptuel ou de circularité de l'Europe. Finalement, l'Europe se présente comme le creuset d'une décrispation, le creuset qui permet la sortie d'un mythe. On aurait mythologisé l'État-nation, il suffirait donc de le démythologiser en profitant, excusez-moi de parler en ces termes, en profitant de l'occasion historique du totalitarisme qui aurait révélé la vérité de l'État moderne. Je pense, et là je m'appuie sur mes lectures de Pierre Manon, qu'il y a une erreur d'optique dans ce diagnostic. Et que cette erreur d'optique, elle peut notamment être rapportée à des éléments proprement historiques. Notamment parce que ces effets disqualifiants de l'État-nation ne se sont pas fait sentir immédiatement après 1945. Ce qui permet justement de comprendre en quoi, bien sûr, c'est la paix des nations qui a permis la construction européenne. Il a fallu, bien sûr, que des nations soient là, que des États soient là. Donc qu'il y ait une forme de regain national après la destruction complète. Et donc ce regain national a pu illusionner, et c'est particulièrement présent dans le cas français, puisque ce regain national, il survit encore 13 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir, il y a d'une certaine manière une illusion qui est maintenue chez les Français, alors que rétrospectivement, on peut lire ce processus comme le baroud d'honneur de l'État-nation, ou la fin de comète de l'État-nation. Ce que je dis ici à propos de l'Europe, on peut le dire aussi du point de vue de chaque État-nation, et proprement, plus spécifiquement, à partir donc du point de vue français. Ce qui me permet de rappeler que l'Europe n'a pas nécessairement à être présenté comme une force extérieure qui rendrait les États-nations victimes, justement, de son processus auto-alimenté. Ici, ce qui est peut-être intéressant à noter, et je reprends sur ce point les analyses de Paul Thibault, c'est que la trajectoire allemande a pu être perçue comme la grille d'analyse de l'État-nation, qui ensuite présente l'Europe comme la rédemption et le chemin de croix à suivre nécessairement, c'est-à-dire une renaissance de l'État-nation, non plus sur le terrain politique, mais sur le terrain de la constitution économique et juridique, qui fait référence, bien sûr, à ce que je viens de dire à propos de la répudiation cathartique du thème national. Donc, méfiance, hostilité viscérale, si je puis dire, mais pour autant, et là je retombe sur des développements plus convenus pour le juriste que je suis, l'ambition d'un dépassement qui fait retour, qui est à mettre en couple avec une dépendance foncière de l'Europe vis-à-vis des États. Depuis ses origines, finalement, l'Europe repose sur des États. Elle suppose l'existence des États. Et aujourd'hui, on a beau jeu, à la faveur de la crise ou des solutions institutionnelles qui ont été trouvées à la crise de l'euro, on a beau jeu de rappeler le caractère intergouvernemental et foncièrement intergouvernemental du développement de la construction européenne. Mais je crois que, finalement, c'est une surface des choses qui n'invalide pas ce que je viens de dire à propos de la méfiance et de l'hostilité viscérale. Ce n'est pas deux écoles, comme souvent on les rencontre en études européennes, ce n'est pas deux écoles qui seraient en concurrence, ce sont finalement deux points de vue qu'il faudrait essayer d'articuler ensemble. Comment il y a une surface des choses qui maintient une forme de fonctionnement intergouvernemental qui serait d'ailleurs, ne serait-ce qu'au strict niveau juridique, à relativiser si l'on considère la montée en puissance du mécanisme de la majorité qualifiée, qui est à mettre en regard avec, justement, ce que j'ai dit précédemment sur l'hostilité viscérale de l'Europe vis-à-vis des nations. Donc superposition des deux points de vue. On peut d'abord noter que, et là je fais référence à ce que dit Pierre Manant, je crois que c'est dans le cours familier de philosophie politique, à propos du consentement individuel, le consentement des États à entrer dans l'Union européenne change les États. Les États pris individuellement avant l'entrée dans l'Union européenne ne sont pas les États après le consentement. Ils changent leur mode d'existence. Donc là, on est un peu, induit en erreur par le langage qui maintient ce terme État, mais finalement, peut-être aurait-on besoin parfois d'un autre concept pour désigner ce mode d'existence. Il faudrait ajouter à cela que le droit européen, si on accepte donc de concentrer son regard sur le matériau juridique, le droit européen fait disparaître ou tend à faire disparaître les États derrière des fonctions, une série de fonctions, de compétences, et derrière des organes. Ce qui amène donc les raffinements doctrinaux du jour en termes de constitutionnalisme multiniveau, c'est un autre nom chez les juristes pour parler de gouvernance. Tout ça s'imbrique harmonieusement, paraît-il. Mais derrière cet éclatement de l'État, qui questionne sur son unité, d'une certaine manière, cet éclatement de l'État permet l'instrumentalisation, c'est-à-dire la mise au service des États à l'Union. Donc instrumentalisation qui est aussi, et le mécanisme est bien sûr conjoint, un dispositif généralisé de surveillance. Donc ce serait le prix du consentement, d'une certaine manière. L'État qui consent à entrer dans l'Union européenne, consent à être surveillé par ses partenaires et à être surveillé, bien plus encore, par les organes communautaires. Ce qui conduit, finalement, si on considère cet appareillage d'organes juridiques, ce qui conduit dans cet éclatement de l'État, à des mécanismes contre nature, d'une certaine manière, si on se réfère au génome de l'État, à savoir des administrations, des juridictions, qui, du point de vue national, sont inférieures. Je me permets de parler encore en termes de hiérarchie, on m'excusera, qui sont inférieures dans l'appareillage institutionnel, mais qui, au nom même du droit européen, ont à exercer des mécanismes d'autorité, de contrainte vis-à-vis d'organes supérieurs, les gouvernements, les parlements. Donc les juges, les fonctionnaires, finalement, ont une revanche à prendre ici sur les parlementaires et sur les gouvernements. Tout cela, bien sûr, enrobé dans une rhétorique juridique du consentement démocratique qui permet justement de tout légitimer. Alors j'ai trop parlé de ces premiers développements à propos de l'État. Je passe très vite sur ce que je prévoyais de dire à propos du libéralisme, qui lui aussi, d'une certaine manière, peut être appréhendé un peu sur le même type que ce que j'ai dit à propos de l'Europe, à savoir un libéralisme qui prétend dépasser l'État, en tout cas dans ses derniers développements, et qui pourtant, si on le ramène à sa matrice originelle, en tout cas c'est un des enseignements qu'on peut retirer de la lecture de Pierre Manant, l'État qui se situe au cœur du dispositif libéral. Et ici, je suis amené à avoir des raisonnements assez simples, un peu économistes. Les économistes disent souvent qu'avant de partager, de distribuer la richesse, il faut la créer. Eh bien, avant de limiter le pouvoir, peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait du pouvoir. Avant qu'il y ait l'Europe, il faut aussi peut-être qu'il y ait des États. Donc je rétablis un raisonnement ici chronologique, non pas pour plaisanter avec ces choses sérieuses, mais pour rappeler que, d'une certaine manière, le libéralisme vit de son insuffisance. Et il transcende son insuffisance en autosuffisance. Le libéralisme, finalement, c'est cette pensée des limites qui ne rencontre aucune limite. Quand, justement, le cadre dans lequel il a historiquement pris place est plus ou moins perdu. Alors, derrière cette question de l'État, d'une certaine manière, de la nation, de la démocratie, c'est la question du politique lui-même qui est finalement en jeu. Si l'on considère les débats intellectuels sur l'Europe, on voit bien que, au constat inquiet de la dépolitisation des démocraties européennes et de l'Europe dans son ensemble, on réplique souvent par un diagnostic qui se veut plus optimiste, qui serait celui d'un changement de nature du politique lui-même. Et là, je retrouve l'autisme conceptuel, ou l'autisme plus généralement, pas seulement conceptuel, de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe ne répond plus au canon classique de la démocratie, donc elle change la définition de la démocratie. L'Europe ne répond plus au canon classique de la définition de la citoyenneté, donc elle change la citoyenneté. Et on est dans un mécanisme d'emballement, d'une certaine manière, qui n'a plus fin. Et qui conduit à ces disqualifications intellectuelles. C'est-à-dire, dès qu'on prend la parole au nom d'une certaine tradition intellectuelle, eh bien, l'Europe, finalement, a nécessairement raison. Oui. Dans le remaniement complet qu'opère l'Europe de la démocratie, finalement, on a deux thèses qui peuvent s'affronter. La thèse de la dédémocratisation, d'une certaine manière, de la souveraineté des peuples, qui joue sur un raisonnement bien connu, à savoir le peuple est une fiction, il faut se débarrasser de cette fiction, et on va recréer une démocratie plus véritable sur la seule réalité désormais discible, à savoir l'individu porteur de droit. Face finalement à ce diagnostic, on peut suivre Pierre Manant dans une position qui consiste à considérer en quoi la démocratie porte en elle-même l'État apporte en lui-même, finalement, sa dose de définition qui, à force d'être malmenée par l'Europe, pose la question de la survivance de la matière première. Est-ce que, finalement, est-ce que l'Europe est à chaque fois justiciable de concepts qu'elle aurait elle-même créés ? Cet auto-enfermement qui me fait penser d'ailleurs au fonctionnement même de l'Église, qui refuse catégoriquement, du haut de sa sacralité, à se voir appliquer les concepts profanes. L'Église n'est pas une démocratie. On ne peut pas appliquer le concept de démocratie à l'Église. Eh bien, l'Europe fonctionne un peu sur ce même modèle, en redéfinissant la démocratie à partir de l'individu, à partir de l'économie et à partir du droit. Et je terminerai peut-être sur la distinction entre libéralisme politique et libéralisme économique, pour rappeler en quoi la tradition libérale à laquelle se réfère Pierre Manant a beaucoup insisté sur à la fois la dignité finalement de l'économie dans sa composition de l'ordre de politique, mais en même temps, à travers cette autonomie de l'économie, aussi une primauté du politique sur l'économique. Et d'une certaine manière, l'Europe nous donne peut-être à voir finalement une revanche d'un libéralisme sur l'autre. Revanche d'une certaine forme de libéralisme économique dévoyé sur le libéralisme politique correctement entendu.
Okay. Ma question s'adresse à Marc Chevrier. Au début de ta présentation, Marc, t'as présenté la cité comme la seule forme politique qui se tenait par elle-même. Et ensuite, t'es revenu avec une idée où l'Empire était présenté comme aussi une forme naturelle, à la différence de la nation. Donc là, ça me pose des problèmes, ça me pose des questions sur la notion même de forme politique, parce que dans ton exposé, t'as aussi utilisé souvent la notion de forme de l'association humaine, te référer à Bachelard aussi à morphologie sociale, on aurait pu penser à Durkheim, à espèce sociale, et tout ça. Et sur la notion même de forme politique, telle que tu la comprends dans la théorie, comme tu l'as appelé, des formes politiques de Manant, je me demandais si, mais comment expliquer à la fois que l'Empire, parce que dans la théorie manantienne, si on peut dire, des formes politiques, il me semble que la forme politique est en un certain sens une forme de cité. Il faudrait aller jusque-là, en un certain sens. Et donc, je me pose la question, en quoi l'Empire qui serait naturel serait une forme de cité ou une forme politique, au sens où tu comprends la théorie manantienne, et dans l'autre sens, en quoi la nation qui n'est pas naturelle serait aussi une forme de politique ou une forme de cité?
Oui, une question très simple pour Julien. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte un concept pour comprendre le rapport de Pierre Manant à la construction européenne, qui est le concept d'utopie. Le concept d'utopie ou de dégénérescence utopique, en fait, du libéralisme, au sens littéral, c'est-à-dire quelque chose qui est sans lieu, qui est sans frontières, et qui, d'une certaine manière, nous éloigne aussi du rapport à la réalité.
Je reviens peut-être à la question de Nicolas un petit peu. Par rapport à la naturalité de la cité et de l'Empire, si on revient aux origines à la cité grecque, l'idée c'est que la cité est naturelle parce que la cité rassemble des hommes qui ont un trait commun, le logos. Et c'est une communauté de discussion, de dialogue, de conflits d'opinion, de confrontation. Bon. Partant de ce point de départ, on se rend compte que dans la racine même de cette conception de la naturalité, il y a une tendance vers l'universalité, vers l'extension, puisque tous les hommes ont le logos. Pas encore toutes les femmes, effectivement. Et donc, ça me fait penser à la conception de l'Europe et notre discussion, enfin, ce que vient de dire Julien Baroche aussi, par rapport à la spécificité de l'Europe. D'une part, c'est un empire démocratique qui rejoint un peu cette vocation finalement à universaliser la forme politique qui correspond à la nature humaine, l'homme rationnel, les principes démocratiques. Et de notre côté, ça nous pose problème du point de vue politique, puisque on dépasse les limites. Vous avez beaucoup parlé de l'incorporation, la cité comme corps. Effectivement, c'est le problème de l'Europe. Nous dépassons ces limites un peu physiques ou géographiques et corporelles d'une communauté restreinte. Donc c'est, pour moi, c'est une sorte de tension qui est inhérente en fait à la conception même de la nature humaine comme rationnelle, à la vocation politique de l'homme. Donc je me demande s'il y a une manière de sortir de cette espèce de paradoxe problématique.
On va s'arrêter sur ces trois questions, sinon on permet de répondre.
Écoutez, je n'ai pas la réponse à ces deux questions, du moins la réponse suffisante. Quand j'ai dit que la cité tient par elle-même, dans la mesure, en fait, c'est que la cité antique, du moins, était une forme accomplie et elle ne nécessitait pas d'être associée à une autre. Alors que l'Empire romain, en fait, c'est le dépassement de la cité romaine qui a englobé finalement tous les pourtours de la Méditerranée et bien au-delà, et en assujettissant d'autres cités. En quoi l'Empire est naturel et en quoi la cité est naturelle? Et enfin, il peut y avoir plusieurs raisons. Madame a évoqué la question du logos, c'est peut-être une des raisons. Mais comme Pierre Manant l'a dit hier en citant Aristote, la cité était naturelle tout simplement parce qu'elle correspondait au fond aux limites, on peut dire sensorielles, des Grecs de l'époque. C'est-à-dire la cité, c'est ce qu'on peut embrasser du regard au sens strictement visuel. Donc les limites sont aussi à trouver, je dirais, dans les conditions psychologiques ou sensorielles d'une époque. On peut avoir un autre critère de la naturalité de l'Empire, par exemple, et dire que l'Empire, c'est l'extension maximale d'une association humaine conduite par un pouvoir de commandement concentré. Et dans ce cas-là, il y a une naturalité de l'Empire, mais qui est conditionnée par toutes sortes de facteurs psychologiques, mais aussi même techniques. La naturalité de l'Empire, je peux la comprendre de différentes façons, soit par le logos, comme Madame l'a souligné, mais aussi tout simplement par l'extension maximale que peut connaître une association humaine commandée par un seul pouvoir très concentré. Et la nation, en fait, englobe, j'ai dit, la cité dans un sens très banal, c'est-à-dire que les nations se sont construites en agglomérant plusieurs cités et en les soumettant. Dans cela, le mot cité peut vouloir dire tout simplement le mot ville ou le mot région. Manens a souvent dit dans son œuvre que la cité et l'Empire sont naturels, mais on donne, à mon avis, peu d'explications. Alors, c'est plus par déduction qu'on comprend que ces deux notions sont naturelles, mais peut-être que Manens voudra nous donner quelques éclaircissements.
Oui, alors sur le caractère d'odégénérescence utopique de la construction européenne, j'avais prévu d'en parler, mais comme il y a toujours un différentiel entre ce qu'on prévoit de dire et ce qu'on dit réellement, je reprends ici, peut-être pour répondre à la question, le parallèle que j'ai plus ou moins esquissé entre l'Europe et l'Église. Et c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit en relisant les textes de Pierre Manant sur la sécularisation. C'est un texte qui est notamment repris dans l'enquête sur la démocratie. Plutôt que d'utopie, je parlerais de déréalisation. Je crois que c'est un mot que Pierre Manant utilise. Déréalisation qui finalement trouve son miroir grossissant dans l'évolution de l'Église elle-même. L'Église, au moment de l'unité italienne, elle perd pied, d'une certaine manière, et elle perd ses territoires. Elle perd ses territoires et, je fais de la philosophie ou de l'histoire philosophique grossière, mais dans cette perte de territoire, il y a finalement un message qu'elle va livrer aux États dans l'immédiate après-guerre, c'est que pour devenir, pour se purifier, il faut aussi se détacher de cet encombrement territorial. Et donc, dans la définition universelle de l'Église, finalement, on retrouve peut-être le foyer de sens de l'identité universelle de l'Europe. Donc la perte de l'inscription territoriale, parce que finalement, tant que l'Église finalement avait un ancrage territorial, elle pouvait s'accommoder de l'Europe westphalienne. À partir du moment où elle perd cet ancrage territorial, elle enjoint aux États de faire de même, puisque si, et là il faudrait revenir plus en amont encore, la souveraineté, ce n'est qu'un concept ecclésial qui a été repris aux canonistes par Jean Bodin pour l'attribuer aux États. Donc il y a un dialogue conceptuel entre l'État, l'Église et l'Europe qu'on gagnerait peut-être à réinvestir pour comprendre en quoi, finalement, l'Europe qui était honnie chez les papes du XIXe siècle, eh bien, devient le nouveau cheval de bataille après Pie XII et surtout après le Concile Vatican II, parce que c'est finalement le creuset qui va être celui de la déréalisation des corps politiques. Et donc il y a comme une revanche historique. Bien sûr, il n'y a pas de complot, hein, je ne crois pas à l'Europe vaticane, mais si on raisonne en termes de morphologie conceptuelle, il y a une parenté à retracer. Et cette parenté, je serais tenté de la poursuivre au plan plus sociologique et peut-être plus sulfureux, à chaque fois que je vais à Bruxelles, j'ai l'impression qu'il y a une consonance d'atmosphère avec celle du Vatican. Il y a une présence, une même présence de, finalement d'une bureaucratie du sens. C'est purement intuitif, mais si j'avais des titres sociologiques à brandir, peut-être que je me lancerais dans cette étude, une étude comparée entre Bruxelles et le Vatican. Certes, bien sûr, les accoutrements ne sont pas les mêmes, le faste non plus.
L'étalé aussi.
Mais d'une certaine manière, c'est peut-être ici, plus que dans le message évangélique, que se situe la parenté entre l'Église et l'Europe.
Oui, les dernières remarques de Julien Baroche sont fascinantes. Donc, si je l'ai bien compris, tous nos malheurs viennent de l'indépendance italienne. Là, vous vous débrouillerez avec Giulio. Mais, en tout cas, votre idée d'une bureaucratie du sens me paraît faire sens. Vraiment, c'est très... quelques remarques très vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. L'État et les nations... Julien, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, en fonction de ce que vous disiez, que, au fond... L'Europe, c'est un État qui se détache des États-nations. Parce que on essaie de penser l'Europe en termes de forme politique, et je trouve l'entreprise, méritoire. Je le sais aussi, mais peut-être on pourrait aussi l'interpréter en termes d'un État séparé de toute forme politique, d'une agence étatique, qui est d'autant plus irresponsable, si je peux dire, que précisément elle est détachée de toute forme politique et d'une certaine façon détachée de toute procédure de légitimation. De légitimation démocratique, théologique, spirituelle ou quelque légitimation que ce soit, sa seule légitimation, c'est l'idée européenne. Donc c'est une légitimation purement idéologique au sens fort du terme. Cette agence étatique nous gouverne, c'est-à-dire nous surveille et nous punit au nom uniquement de l'idée. Au nom de l'idée. Alors, maintenant, quelle forme politique est-ce ? Et je reviens à l'exposé si articulé et qui pose tant de questions de M. Chevrier. Première, une remarque sur Guizot. Je crois que vous avez raison. Je crois que Guizot... Gwendal Chaton avait fait la remarque hier, il me semble. Guizot-Tocqueville. Il me semble que la science politique de Tocqueville est plus judicieuse que celle de Guizot, ou en tout cas conduit à une politique plus judicieuse. C'est facile à dire aujourd'hui, avec le recul historique, étant donné les malheurs de François Guizot, comme homme politique et comme homme d'État. Mais comme historien, je crois en effet que Guizot est supérieur à Tocqueville. Il y a chez Guizot, chez Tocqueville, j'en demande pardon aux Tocquevilliens présents dans cette salle, il y a chez Tocqueville la poursuite d'une polémique libérale contre la monarchie, absolutiste européenne, et en particulier française, qui n'est pas très judicieuse historiquement. Elle est peut-être pertinente politiquement. L'absolutisme Louis XIVien n'est peut-être pas une tendance politique française à encourager, nous en sommes d'accord, mais essayer de comprendre l'histoire française à partir de cette position polémique, je crois que c'est une mauvaise posture. Et Guizot, qui a d'autant plus de mérite que, comme on sait, il est protestant, il avait ses raisons confessionnelles d'avoir quelques ressentiments à l'égard du grand roi, eh bien Guizot montre au contraire une intelligence beaucoup plus généreuse de l'action du grand roi et en général de l'action de la monarchie française, précisément dans la constitution de la nation française. Notion de nation que Tocqueville n'analyse pas. Elle est prise en tenaille, en quelque sorte, entre l'État et la démocratie. C'est une formation intermédiaire aux yeux de Tocqueville, mais qu'il n'étudie pas pour lui-même. Second point et dernier de ces brèves remarques, la cité et l'Empire, pourquoi je dis souverainement que voilà, ce sont les deux notions naturelles. Tout ce qui a été dit est juste, je crois. La question des dimensions, l'argument d'Aristote, n'est-ce pas, la communauté que l'on peut embrasser du regard, comme le dit Léo Strauss, la communauté qui est proportionnée au pouvoir humain de connaître et d'aimer, c'est une parfaite définition, et puis l'Empire, donc, l'ensemble des hommes, comme le disait Cristal, des êtres doués de logos. Bon. Mais il y a quelque chose de plus dynamique, je dirais, dans cette relation, c'est que ce sont les deux possibilités de l'archaïque. C'est-à-dire que l'archaïque, le commandement au sens plein du terme, est ambigu. On commande chez soi, on commande à ceux de sa communauté, on commande à des gens qui obéissent et qui, idéalement, dans la meilleure forme de vie commune, vont à leur tour commander. Donc, c'est la communauté civique du commandant commandé par alternance. Mais aussi le commander a naturellement une propension à s'étendre au-delà des limites de la communauté, de ceux qui commandent et obéissent. Donc, il y a donc le commandé, l'archaïne cherche l'empire naturel. La cité est nécessairement et naturellement impériale. La cité d'Athènes fut impériale. La nation fut impériale. Et évidemment, l'empire, par définition, est impérial. Donc, je crois que la naturalité des deux réside dans l'ambivalence de l'archaïne, dans cette ambiguïté, dans cette bifurcation de l'archaïne et inséparable de l'archaïne lui-même. Alors, et dans ce contexte, je crois en effet que la nation présente cette bizarrerie d'une mesure qui n'est pas donnée ni dans la définition de la cité, ni dans l'illimité de l'Empire. Et la nation le système européen des nations, en dépit de toutes les catastrophes afférentes, a représenté dans les bonnes périodes au moins, et au fond sur l'ensemble de la trajectoire historique, un ajustement des communautés qui reposait, je dirais, sur une pure détermination spirituelle, sur une pure mesure spirituelle, en quelque sorte, une circonscription de l'imagination qu'il était impossible de rattacher à une détermination naturelle. Et je ne le rattache pas strictement à la culture, parce que, bon, c'est une notion trop indéterminée. Mais je crois, et je le suggérais hier, que cela doit être rattaché au travail sur l'imagination communautaire, en quelque sorte, sur l'imagination communiante liée à l'appropriation du christianisme. Je crois que la capacité de se constituer en circonscription spirituelle, capable de coexister dans des limites à la fois indéterminées mais néanmoins respectées et respectables, est liée à cet effort de communion très original qu'induit la proposition chrétienne. Et dernière remarque sur l'Europe, est-elle un empire? Bon, je disais, c'est un État sans nation. Je ne crois pas que ça puisse être un empire, tout simplement parce que il ne peut pas y avoir d'empire démocratique proprement dit, parce que l'empire suppose que l'empereur doit dominer sur une hétérogénéité. C'est un archaïne qui domine des peuples hétérogènes. Et en tout cas, l'archône ou l'archonte a une légitimité indépendante et substantielle. Il n'y a pas d'empire, malgré tout, sans empereur. Il n'y a pas d'empire sans empereur, et l'empereur est d'une condition différente de ceux à qui il commande. Et pour le dire les choses, l'empereur est d'une condition divine. Il n'y a pas d'empire romain sans la divinisation de l'empereur. Et donc, il n'y aura pas d'empire européen, à moins que Monsieur Van Rompuy soit divinisé un jour prochain, ce qui est possible.